Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la Résistance.
Libradio, www.libradio.org.
Alors nous sommes au pavillon bleu, nous allons parler BDS. BDS, ça signifie, c'est un acronyme qui signifie boycott, désinvestissement, sanction. Mais vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Nous revenons sur le moment de l'Eurovision. Pourquoi l'Eurovision? C'est parce que on parle là de art washing, peut-on dire, et du boycott culturel. Ce sont peut-être les deux mots-clés qui surgissent le plus aisément lorsque l'on en comprend et que l'on entreprend cette campagne. Mais immédiatement, je vais vous céder la parole. Peut-être commencez-vous par vous présenter, et puis ensuite on parlera BDS et de la campagne. Alors, qui veut commencer?
Du coup, je me présente. Je m'appelle Mona Denaoui. Je suis actuellement étudiante à l'Université de Genève, donc en master de psychologie clinique. Du coup, j'ai rejoint en fait le mouvement BDS, BDS Genève, il n'y a pas très longtemps, enfin début de l'année. Ça fait assez longtemps en fait que, enfin depuis l'année passée précisément, que je milite pour le mouvement BDS. J'ai commencé à Toronto, au sein d'un mouvement étudiant. J'avais toujours été concernée par la cause, mais je n'avais jamais vraiment trouvé à Lausanne, parce que j'habitais à Lausanne, quelque chose pour lequel je peux faire quelque chose, on va dire. Et du coup, quand j'ai trouvé qu'il y avait BDS Genève, j'ai commencé. Et puis,
il n'y a pas à Lausanne?
À Lausanne, il y a d'autres types de groupes, mais qui ne s'inscrivent pas là-dedans.
Ok. Et tu as dit avant Toronto, c'est-à-dire que BDS est un mouvement transnational?
Exactement, international.
International. Merci beaucoup.
Salut, moi c'est Jorge. Je suis chilien, d'abord, au Chili, où il y a aussi un mouvement BDS au Chili, et aussi suisse. Ici, je suis historien et étudiant en sciences de l'information, et je milite avec BDS depuis 2010 à peu près.
D'accord. Voudriez-vous peut-être présenter un petit peu BDS? On l'a d'ores et déjà dit, donc ça signifie boycott, désinvestissement, sanction. C'est un mouvement qui donc effectivement est mondial d'une certaine manière, en tout cas qui est dans plein de pays. Voilà, voudriez-vous nous fixer quelques petits jalons pour les personnes qui écoutent et qui ne connaissent pas du tout BDS?
Ok, volontiers. Je retracerai volontiers la naissance de BDS. Je la pointerai autour de l'année 2004-2005, lorsque les premiers appels de Palestiniens, notamment de syndicats, d'organisations de droits de l'homme, aussi d'artistes, d'acteurs culturels de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem, y compris d'Israël aussi, enfin citoyens palestiniens habitant en Israël, et puis de palestiniens réfugiés dans le monde, ont lancé un appel à toutes les bonnes volontés au niveau international pour commencer à appliquer des campagnes de boycott de produits de consommation. Ça a commencé très doucement, mais en même temps, l'appel parlait aussi de désinvestissement et de sanctions internationales contre un régime qui, après l'échec de l'espoir qu'avait peut-être suscité chez certains les accords d'Oslo, commençait à apparaître comme un régime d'apartheid, c'est-à-dire construisant un mur qui a été condamné par la Cour internationale de justice en 2005, qui sépare les Palestiniens entre eux à l'intérieur même du territoire de Cisjordanie, une clôture, un faux désengagement de la bande de Gaza qui en fait est devenue une prison à ciel ouvert et qui est sous blocus depuis 2007 à peu près. Et puis un processus qui a consisté à vider aussi la ville de Jérusalem de ses habitants de Jérusalem qui sont poussés vers habitants palestiniens, donc qui sont poussés vers l'exil, vers la Cisjordanie par exemple. Et un processus de discrimination des Palestiniens citoyens d'Israël qui a abouti en 2018 à une loi strictement d'apartheid qui est reconnue comme telle et qui est même assumée par beaucoup comme telle, qui consiste à dire que le seul droit à l'autodétermination, le seul droit à la nationalité ou à la reconnaissance des valeurs nationales en Israël appartient aux Juifs. Les Palestiniens eux-mêmes, par exemple, la langue arabe est considérée comme une langue de deuxième catégorie, Officiellement, jusqu'à là, elle était considérée comme une langue officielle. On va mettre des guillemets, on ne peut pas les voir à la radio. Et c'est, voilà, cet ensemble de lois, de réglementations, de chicanes de type physique, pour nous, ressemble, est un système qui revient à être un système, un régime d'apartheid que nous, nous dénonçons depuis 2004-2005.
Très bien. On va rappeler immédiatement que BDS est un mouvement strictement pacifiste et qu'il le revendique. Parce que c'est vrai que souvent, des fois, une information est faite et puis elle est un petit peu détournée. Alors voilà, on peut le dire, ça, que c'est vraiment un mouvement pacifiste dont les trois principales lignes directrices sont le boycott, le désinvestissement et les sanctions internationales. On va peut-être aussi rappeler qu'à la Knesset, dans le Parlement israélien, alors que 20% au moins, mais c'est plus de 25% de la population israélienne est d'origine arabe, eh bien la représentation qui se situe à la Knesset est évidemment quasiment inexistante pour le moins. Alors revenons aux campagnes, et notamment cette campagne-là autour de l'Eurovision. Donc on a parlé de boycott culturel. Est-ce que c'est cela vers quoi vous avez tendu concernant ce moment de l'Eurovision ?
Oui, parce qu'en fait, Israël possède une stratégie qui s'appelle Brand Israel. Et l'Eurovision fait partie de cette stratégie en fait, qui consiste à présenter le pays sous une jolie lumière. Enfin, que venez, c'est une démocratie flambante. Ici, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. C'est un petit peu ce qu'il va le présenter, alors que la réalité est tout autre. Et du coup, il était très important, en fait, c'est l'appel à nouveau de la société civile palestinienne qui a appelé à boycotter ce mouvement, à commencer à écrire aux artistes qui étaient, aux pays respectifs avant la sélection, en fait. Et ensuite, une fois qu'il y a eu la sélection pour chaque pays, on a commencé à leur écrire de manière, leur faire prendre conscience de vraiment à quoi ils prenaient part.
Absolument. Ce dont vous allez nous parler maintenant, est-ce que, on sait que, donc, au départ, c'était prévu, si je ne me trompe pas, parce que moi, je ne suis pas trop l'Eurovision, mais c'était prévu à Jérusalem et ça a été déplacé à Tel Aviv.
Alors, pour être tout à fait exact, lorsque la chanteuse Neta a gagné l'Eurovision l'année passée à Lisbonne, elle a prononcé un discours pour remercier tout le monde parce que sa chanson avait été votée par la majorité du public, public européen. Elle a prononcé un discours en disant « Next year in Jerusalem ». Au sens strict du terme, les pays membres de l'Union européenne de radio et de télévision organisent l'Eurosong, le festival Eurovision de la chanson, dans le pays de la personne qui a gagné. De la chanson lauréate. Donc, il n'était pas écrit d'avance que ça devait être à Jérusalem. Mais il y a une campagne en Israël pour installer, et tu le sais, et nous le savons tous, pour installer Jérusalem comme capitale unique et indivisible de l'État d'Israël. Donc, le discours le très bref discours de Neta à Lisbonne s'inscrivait dans cette tendance-là. Et il y a eu tout un débat interne au sein du régime israélien, à la télévision, à Tel Aviv, entre Tel Aviv et Jérusalem, une sorte de rivalité pour quel serait le meilleur moyen de donner un meilleur visage à Israël à l'occasion de l'Eurovision. Et Tel Aviv s'est imposé. Et Tel Aviv, la municipalité de Tel Aviv était même d'accord de mettre de l'argent pour organiser cet événement. Je crois même que c'est le cas.
Ok. Selon vous, quels sont justement les enjeux, tu viens de les ébaucher, mais quels sont les enjeux de l'organisation de l'Eurovision justement en Israël par Israël? Tu viens de dire effectivement une formule, hein, demain à Jérusalem, qui est une formule historique, qui, si ça se trouve, même Ben Gurion j'en sais rien, je dis ça un petit peu au hasard, mais pour placer un peu le cadre historique, c'est vrai que c'est quelque chose qui habite beaucoup en Israël, des personnes qui, plutôt réactionnaires, etc., etc.
D'abord, l'enjeu pour au niveau international de l'Eurovision lui-même. Quand l'Eurovision est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le but du concours Eurovision de la chanson était de créer un moment où on est ensemble, où les pays européens sont ensemble, après avoir été divisés si longtemps. Maintenant, l'Union européenne de radio et télévision, a beaucoup de membres, tous les pays européens et des États associés. Il y a aussi la Turquie, le Maroc, l'Australie, le Canada, je crois qu'il en fait partie aussi, et évidemment Israël, qui en fait partie également. Donc, le fait de gagner l'Eurovision, permet à un pays de d'être vu pendant une semaine de manière massive par tous les téléspectateurs d'Europe. Et on joue beaucoup la carte de la lumière scintillante, de la brillance, du culte de la diversité, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est positif. Pour Israël, c'est une aubaine de pouvoir se présenter aussi positivement.
De même, enfin, comme je disais avant, vu qu'ils l'utilisent comme un moyen de dirt washing, justement pour laver en fait les crimes de guerre qu'ils ont commis, c'était une opportunité d'or, évidemment. Donc, Et puis même en fait pour les artistes, une des difficultés qu'on a rencontrées en fait pour la campagne, c'est qu'en fait déjà l'Eurovision n'est pas quelque chose que les gens apprécient tant que ça de manière générale. Enfin, c'est quand même vu comme mettons quelque chose d'assez ringard, si je peux dire. Donc déjà pour appeler les gens à boycotter ça, alors que certains font déjà un petit peu une espèce de si je peux dire boycott naturel dans le sens qu'ils regardent pas, c'était déjà un peu difficile. Mais ensuite aussi même les artistes qui ont été sélectionnés pour participer, ils voyaient ça comme une opportunité d'une seule vie. Donc ne pas y participer, on va dire qu'ils ont mis leur propre intérêt au-dessus de ceux des Palestiniens.
Je tiens à dire que d'abord notre campagne au niveau national, mais aussi dans d'autres pays, plusieurs pays européens où il y a eu des campagnes qui ont été lancées dès la victoire de Netta l'année passée, a consisté d'abord à s'adresser aux chaînes de télévision publiques et à les inciter à se retirer du concours. Donc on s'est d'abord adressé aux partenaires officiels de l'Eurovision. Et il y a eu un appel important de la part d'une cinquantaine de personnalités, dont Brian Eno, Peter Gabriel, Vivian Westwood, en Angleterre, pour inciter la BBC à ne pas y aller. Il y a eu une pétition populaire énorme en Irlande pour inciter la chaîne irlandaise à ne pas y participer. Le processus de sélection en Espagne, c'est une sorte de real TV. C'est-à-dire qu'on on a mis des candidats chanteurs dans une boîte, comme l'ancien Loft Story ou Big Brother, et puis on les a vus pendant des mois s'entraîner, apprendre à chanter correctement, etc. Et ça a donné lieu à un débat à l'intérieur de cette boîte entre aspirants chanteurs, où il y a un groupe de filles, un groupe de chanteuses qui étaient parmi les finalistes, qui ont dit que ça les gênait énormément de se rendre en Israël, que ce serait une mauvaise idée. Finalement, il y a quand même quelqu'un qui s'est porté volontaire avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est une aubaine, hein, c'est difficile quand même de se dire, franchement, quelle est la pesée d'intérêt? J'y vais pour la gloire personnelle, mais en même temps, il y a les Palestiniens qui me demandent de boycotter. C'est un problème de conscience qui est posé à ce moment-là aux artistes. Mais la première démarche que l'on fait, c'est de s'adresser d'abord aux institutions pour leur dire n'y allez pas, prenez conscience de ce que c'est. Et en Suisse, ça n'a pas été facile.
Alors effectivement, c'est une campagne qui a été rondement menée de manière extrêmement intelligente et humoristique, notamment par ces quelques chansons mythiques détournées dont vous allez nous parler. Avant cela, peut-être faudrait-il rappeler tout de même le site internet, on n'a pas encore cité, de BDS, où les gens peuvent justement retrouver toute cette campagne et puis encore toutes les informations concernant la situation actuelle en Israël.
Le site internet donc qu'on a de BDS Suisse, vous pourrez retrouver toutes les infos en fait qu'on aura dit aujourd'hui par rapport à ce que c'est que le mouvement DS, ce qu'il appelle, l'historique. Mais ensuite, on a aussi créé le site internet No Song for Apartheid, qui était spécifiquement destiné donc à cette campagne, avec la pétition qu'on avait lancée l'année passée.
Pétition qui a recueilli quand même un paquet de signatures.
2000 signatures, ce n'est pas simple. Parce que ce n'est pas beaucoup non plus, par rapport par exemple à la campagne de signature irlandaise, qui en a recueilli 15 000 je crois, par rapport aux Islandais où il y a 20 000 signatures. Non, moi je commence par reconnaître d'abord que ce n'est pas simple. Nous vivons dans un pays pas simple d'ailleurs, avec quatre chaînes du groupe SSR en quatre langues. C'est pas évident de s'adresser à tout le monde. Tout le monde n'a pas la même approche vis-à-vis de la culture un peu kitsch, qui est celle de l'Eurovision. La Suisse alémanique qui est beaucoup plus réceptive. Et le BDS en Suisse est plutôt actif en Suisse romande. Non, effectivement, nous avons recueilli 2000 signatures dans tout le pays, suite à un appel qui a été lancé par des chanteurs et des artistes avec notre soutien actif comme BDS. Le premier d'entre eux était Michel Buller, il y avait Sarclo, il y avait Root Words, un rappeur genevois, beaucoup d'artistes, La Galle, une rappeuse lausannoise. Il y avait aussi Heidi Happy, qui elle, est une chanteuse un peu plus mainstream en Suisse alémanique. Il y avait Jeans for Jesus, aussi un groupe de rock bernois. Mais ça n'a pas été simple parce qu'on s'adresse avec l'Eurovision à un public qui, a priori, n'est pas très politisé. Et puis, en même temps, on s'adresse à un public qui est, lui, plus militant, mais qui ne s'intéresse pas à l'Eurovision. Donc, effectivement, on a un peu nagé à contre-courant. C'est pas évident de nager à contre-courant.
Non, puis effectivement, c'est un grand écart entre ces personnes extrêmement politisées qui, a priori, suivent peu l'Eurovision, comme tu viens de le dire, et les personnes de l'Eurovision qui sont plus dans le kitsch et dans la démarche extrêmement distrayante, mais peu consciente, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Pour le site internet, donc bds.ch, on trouve là-dessus donc toutes ces informations.
Alors oui, il y a le BDS en tant que mouvement a fait deux lettres ouvertes, une à la radio, à la Société suisse de radio et télévision, c'est-à-dire on a traduit ça en trois langues, on n'a pas trouvé de traducteur en romanche. On a fait une lettre ouverte à Luca Eni, je ne sais pas si tu le connais. Non. Eh ben voilà, il est sorti quatrième en finale. D'accord. À Tel Aviv, c'était le candidat suisse.
J'ai bien compris.
Voilà. Non, mais en Suisse romande, on ne le connaît pas. Hein.
Non.
Enfin, voilà. C'est simple. Hier, sont sortis les chiffres d'audience de la soirée de la finale à Tel Aviv. 660 000 téléspectateurs ont suivi ça en Suisse alémanique, sur la chaîne Suisse alémanique. Par contre, on ne connaît pas les chiffres pour la Suisse romande et la Suisse italienne. Je pense que. Et je les ai demandés. Mais je crois qu'en fait, ils n'existent pas pour l'instant. Voilà, je crois que la différence va être nette. Dans d'autres pays comme l'Irlande, il y a eu une baisse d'audience à cette occasion. Ah, parce que BDS avait demandé effectivement qu'on boycotte cette soirée-là. En fait, il y a eu deux lettres ouvertes du BDS que nous avons adressées à la télévision et aux chanteurs. Mais parallèlement, il y avait cette pétition lancée par des artistes qui s'appelle « Pas de chanson pour l'apartheid ». Et en fait, ce n'est pas vraiment un site, c'est une pétition qui est sur le site de Campax, qui est un site de pétition en Suisse, et qu'on peut dont on peut retracer un peu l'évolution en allant sur le site de Campax et en tapant « Eurovision Israël », mais aussi sur Twitter avec le hashtag « No song for apartheid ». Tu vois, l'anglais, c'est la langue véhiculaire en Suisse.
Eh oui, bien sûr, bien sûr. Quand reste-t-il, selon vous? Voilà, l'Eurovision est terminée. Il y a eu, les tensions se sont calmées, j'imagine. Tout le monde est un petit peu reparti à la maison. Selon vous, voilà, quand reste-t-il? Est-ce que vous pensez, en faites-vous un bilan positif? Et ensuite, à suivre, trois petits points.
Moi, je dirais quand même que c'est positif dans le sens que le mouvement BDS, si on part de ce point de vue-là, ça prouve en fait qu'il est devenu mainstream. Parce que même si aucun artiste ne s'est retiré de ce concours, cela reste que en fait les gens ont répondu par les pétitions. Ils ont beaucoup beaucoup milité sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est juste bourré avec les hashtags boycott Eurovision 2019. Ça, c'est énormément de trucs par rapport à ça. Et puis aussi en fait, je sais pas si vous avez vu donc durant la finale. Il y a eu cette polémique avec le groupe islandais Atari qui a donc brandi des drapeaux, enfin des bannières palestiniennes, enfin des bannières aux couleurs palestiniennes. Et de même, Madonna, durant sa performance, donc elle a performé durant la finale, elle a mis donc sur les dos de deux danseurs un drapeau israélien et puis un drapeau palestinien côte à côte pour signifier la coexistence. Ça prouve que c'est différent. C'est peut-être pas quelque chose qui se serait passé il y a quelques années ou les dernières fois que ça a été tenu en Israël.
Les lignes bougent, selon vous, en tout cas. Et ça contribue, ce type de campagne, à les faire bouger.
Il y a quand même deux artistes qui se sont retirés d'un des side events de l'Eurovision. C'était le 15 mai, donc quelques jours avant la finale et pendant la phase des éliminatoires. Avant d'arriver à la finale, donc, il y a eu une fête, Electrovision, organisée par deux ambassades européennes, celle de l'Union européenne et celle des Pays-Bas, avec la collaboration des organisateurs israéliens, dans un parc à Tel Aviv. qui avait été un site, c'est un site palestinien qui a été détruit pendant la campagne de nettoyage ethnique en 1948. Donc il y a deux artistes qui se sont retirés parce qu'on leur a fait, on a attiré leur attention sur le fait que Tel Aviv, la scintillante, la blanche, etc., est une ville qui a subi aussi, qui s'est construite, ce qui s'est bâti sur la destruction de nombreux villages, de nombreux sites palestiniens. C'est le cas de cette fête Electrovision sur la plage, parce que c'était un village de pêcheurs jusqu'en 1948, et aussi le site lui-même du centre de convention où avait lieu la finale de l'Eurovision. Le village s'appelle Al-Shaik Mouanis. Nous avons eu à nous confronter à une campagne, à une stratégie de la part de la télévision suisse qui a consisté à passer sous silence notre campagne. Ils n'ont jamais répondu à quelconque de nos appels. Il n'y a pas eu de débat. Aucun des 100 signataires n'a été invité sur les plateaux ni au micro. Merci à toi. Il y a eu quelques petits médias comme Le Courrier qui ont fait écho à notre campagne. Il y a eu Vigous qui a sorti un super dossier le week-end dernier. Il faut l'acheter, hein, avec un jeu de mots, Gazouï à Tel Aviv, Gazaoui à Gaza.
Pas mal, hein, il y a un Vigous.
Et alors, donc, une bonne partie de notre campagne à nous a consisté à essayer de réveiller les collaborateurs et les collaboratrices de la RTS en Suisse romande, de la SSR en général. Et à un moment donné, nous avons eu l'idée, grâce à une artiste qui fait partie de notre groupe, qui nous suit, qui nous a proposé d'écrire des cartes postales. Et on se creusait la tête pour savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit jouer la carte ironique? Ou est-ce qu'il faut la faire autrement? Et en fait, les Palestiniens avaient, à un moment donné, appelé l'attention sur le village de Al-Shaik Mouanis, qui était le village d'où 2240 Palestiniens avaient été chassés en 1948 pour faire place à ce qui est aujourd'hui le centre de convention de Tel Aviv. Et nous leur avons envoyé donc une carte postale avec un extrait de la carte de la zone d'avant la destruction, où on voit en gros plan le nom de Al-Shaik Mouanis. Et nous avons envoyé ça à tous les collaborateurs autant que possible, hein, surtout les animateurs, les producteurs. Et là, on a vu, avec un accompagnant de petits mots comme ça, on a essayé de rompre ce mur du silence. Moi, je crois que pour ça, il y a une petite victoire. Ils ont commencé à en parler. Ils ont commencé à en parler, et je crois que et à certains moments, on a même évoqué le fait que c'était anciennement un village palestinien. Je crois que pour ça, oui, c'est une victoire. Mona a raison de dire qu'effectivement, on a parlé de la campagne BDS en Europe en général. À Genève, en Suisse, on a essayé de faire silence là-dessus. Mais par contre, notre campagne, je crois qu'elle a eu son petit effet quand même.
Donc on peut dire que les langues doucement se délient, que ce fameux mur, qu'il soit ce mur, se fissure, en tout cas le mur des consciences, en tout cas, et que du coup, eh bien, tout cela est plutôt positif. Au final, pour BDS et puis pour la cause palestinienne, j'ai envie de dire.
Oui, parce qu'une choses qui montrent que ça c'est en train de changer et puis qu'en fait le mouvement BDS considère comme des victoires, c'est juste de parler en fait du mouvement BDS. Parce qu'en fait beaucoup de personnes, enfin c'est bizarre, hein, parce que quand on est impliqué dedans, on se rend pas compte, mais beaucoup de personnes qui ne sont pas impliquées dans cette cause, qui ne sont pas dans ces mêmes lieux, ne savent même peut-être même pas ce qui se passe là-bas.
Certainement, donc, tout à fait.
Déjà, juste en parler et puis faire prendre conscience de ce qui se passe là-bas, c'est déjà une petite victoire. Et puis, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Parce qu'en fait, quand l'appel a été fait en 2005, c'était pas encore très à la mode de faire ça sur Internet et tout ça, c'était beaucoup, peut-être plus compliqué. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on a fait la remise des pétitions symboliques, donc au siège de l'EBU ici à Genève, mm-hmm. La photo qu'on avait faite devant, elle a tourné un peu dans tout le monde entier parce qu'on a appelé du coup PACB, qui est le Palestinian Academic Cultural International Boycott, qui donc relaie un petit peu tout ce qui se passe au niveau boycott culturel académique dans le monde entier. Et puis juste ça, ça fait tourner, et puis les gens ont vu, et puis oui, on considère ça comme une victoire.
En tout cas, on invite les gens à aller voir ces fameux clips détournés qui sont extrêmement drôles et intelligents, et ça, c'est tout ça. Ça
ouais, c'est un collectif BDS qui est à Londres, London BDS, qui est extrêmement, effectivement, très créatif. Oui, il y a des pays où BDS a des talents, et bon, nous aussi, nous en avons. Mais nous sommes un petit pays.
Mais oui. Quelles sont les prochaines campagnes que vous allez proposer à BDS? On va terminer là-dessus, puisque récemment, nous avons pu encore interviewer, vous savez qu'on a eu la flottille pour la liberté à Gaza. On avait pu interviewer des personnes depuis les bateaux qui disaient qu'effectivement, ce mur du silence, il est quand même beaucoup, beaucoup présent et qu'à force de... Voilà, c'est peut-être la répétition de ces luttes qui vont réussir à le désagréger. Prochaine campagne de BDS, y a-t-il déjà des choses de prévues ici à Genève ou en Suisse?
Bon, il y a des campagnes permanentes. Hein. BDS, c'est une campagne permanente avec des focus comme, par exemple, la vente d'armement, les échanges d'armement. La Suisse est un gros client, mais aussi un fournisseur. Il y a une grande campagne qui a recommencé concernant Airbnb, par exemple. Toutes ces plateformes vacancières comme Booking, Airbnb, TripAdvisor, qui signalent des sites de vacances et sur les colonies israéliennes en Cisjordanie, à la suite d'un rapport de Human Rights Watch, Airbnb avait annoncé qu'ils allaient retirer de leur liste de recommandations les sites qui se trouvaient dans les territoires occupés. Parce que ça s'inscrit dans le profit fait sur l'occupation et la colonisation illégale. Il y a eu de très très fortes pressions faites par le pouvoir israélien, ce qui fait que Airbnb est revenu sur sa promesse. Ils sont un peu hypocrites parce qu'ils disent que voilà, on les remet sur la liste, mais on va pas faire de profit là-dedans. Nous allons verser les commissions que nous recevons. Nous allons les verser à des ONG caritatives, droits de l'homme, etc. Et maintenant, il y a un appel de plus de 100, presque 200 collectifs palestiniens pour appeler les ONG internationales à refuser l'argent d'Airbnb. Parce que c'est de l'hypocrisie.
Mais complètement. On est de nouveau dans du total. Art washing, cultural washing, etc. Absolument. Eh bien dit. Donc, en tout cas, je vous félicite déjà pour tout le travail que vous avez mené. De quelle manière est-ce que les personnes qui vont écouter ce podcast pourraient-elles collaborer, rejoindre BDS, Genève ou Suisse?
Bah, du coup, on a parlé du site web. Déjà là, vous avez toutes les coordonnées, donc vis-à-vis, par exemple.
Ouais, c'est bds-info.ch.
Merci. Et donc voilà, nous, on peut inviter les personnes. Vous avez besoin à BDS encore beaucoup de main-d'œuvre ou est-ce que ça va ou de quoi avez-vous besoin à BDS? Financement également, j'imagine.
Je dirais que oui, on a besoin de main-d'œuvre, effectivement, parce que c'est un mouvement qui a quand même besoin de beaucoup d'efforts. Donc plus on a de personnes, le mieux c'est, je dirais.
Très bien.
Oui, nous avons besoin de talents qui travaillent avec nous sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, parce que ça continue. C'est quand même dans la rue que les choses se passent le plus. Même si cette campagne sur l'Eurovision, on l'a beaucoup faite sur les réseaux sociaux, c'est quand même dans la rue que l'essentiel de la mobilisation se fait en général pour tous les mouvements sociaux. Hein. Et puis oui, nous avons besoin de dons. Parce que effectivement, évidemment, nos ressources sont celles que l'on veut bien nous donner par la bonne volonté des gens. Et voilà. Bon, moi je connais pas le numéro de compte de chèque postal, mais on le trouvera tout en bas du site. Peut-être qu'on devrait le mettre en haut. Ce serait plus efficace.
Peut-être. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Voudriez-vous ajouter encore quelque chose? Y aurait-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre? Ou alors pour aujourd'hui, et je dis bien que pour aujourd'hui, parce que effectivement, BDS, c'est comme vous l'avez dit, une organisation, une association qui s'occupe de énormément de choses. On sera certainement amené à se revoir.
Merci, William.
Ok, merci beaucoup, Mona. Merci beaucoup à toi et à bientôt.
Libre Radio, la radio non atlantiste, eurosceptique mais européano-conseilliste, all exit, xénophile et vraiment pas, mais vraiment pas mélomane. www.libradio.org.
Graham, Israel's getting me down. I said, Graham, why you making me frown? I said, Graham, got to turn it around. There's no need to be complicit, Graham. Oh, there's nothing you can do. I said, Graham, boycott Israel to stand for justice. And I'm sure you will find now the time, boycott apartheid. Stand up for justice, say yes, BDS. Stand up for justice, say yes, BDS. There's a movement out here, everybody can join. You don't have to be Israel's toy. Stand up for justice, say yes, BDS. Stand up for justice, say yes, BDS. You can sing it with me, show solidarity until all Palestine is free. Graham, I was once in your shoes. I said, Graham, didn't know I could choose. I felt nothing I could do to bring change. I felt the whole world was so strange. That's when someone came up to me and said, work up until Palestine is free. There's a movement and it's called BDS. So don't hesitate, just say yes. Stand up for justice, say yes, BDS. Stand up for justice, say yes, BDS.